La suite des 40 ans de Canal B, c'est avec Juliana, il est midi. Bon, ah tiens, salut Juliana.
Ah oui, salut, je suis déjà dans le studio.
Qu'est-ce qui va se passer dans l'heure qui suit?
Eh ben, on va faire une rupture, tiens, on va parler plutôt d'actualité littéraire, mais pas que, on va remonter le temps également avec une invitée exquise qui se connaît, mais vraiment en littérature jusqu'au bout des ongles.
Ok, merci. Bonne émission
merci,
à toi, Juliana.
Bisous et joyeux anniversaire, Thibaut.
Merci. On va enchaîner avec un morceau choisi par un des animateurs de Canal B. En l'occurrence, c'est Putain, Putain, t'es sématique. Alors là, on est au tout début des années 80. Qui a choisi ça, Quentin? Quel animateur? Il sait pas.
Je ne sais plus.
D'accord. Alors, merci à lui.
Thank you.
Le nombre de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour tout le monde, c'est Juliana. Nous sommes aujourd'hui dans une journée festive d'anniversaire parce que c'est l'anniversaire du Canal B. Eh bien voilà, je vais faire une rupture par rapport à tout à l'heure. Je sais que mes collègues sont assez nombreux à revenir sur des anciennes émissions de Canal B, de raconter un peu notre histoire, etc. Je me suis dit, avec l'émission Le Nombril de Vénus, je ne sais pas si vous les connaissez, parce que normalement je ne parle pas à la radio actuellement à midi, mais bien le samedi à 11h jusqu'à 11h30 et les dimanches de 16h30 à 17h en rediffusion. Et nous parlons dans cette émission avec aussi Blaise, qui fait de la chronique de littérature jeunesse, et Sandrine, qui fait des chroniques littéraires. On parle des livres, de l'univers des livres, des gens qui font des livres, des gens qui aiment les livres, qui les mettent en avant, etc. Et pour cette émission d'aujourd'hui, je voulais interviewer quelqu'un que je pense digne de cet anniversaire de Canal B, puisque c'est quand même un personnage de notre ville. C'est vous, Véronique Marchaud, et d'ailleurs je vais te tutoyer, ça va être plus simple. Bonjour Véronique.
Bonjour Juliana.
Eh bien, pourquoi ? Parce que depuis de très nombreuses années, et d'ailleurs tu vas me le dire, combien de temps tu es là auprès des livres, c'est un objet qui t'entoure au quotidien, et pour faire le partage avec ceux et celles qui rentrent dans la librairie Le Fayeur, pour ne pas la citer, tiens, ça fait combien de temps que tu es libraire ?
Alors en fait, ça fait 44 ans.
Ah bah d'accord,
donc, c'est cool. Donc je suis un peu plus âgée que votre radio.
Ouais, c'est cool. Et comment c'est venu en fait de se dire tiens, je vais faire ce métier?
Alors je vais être très honnête, en fait moi j'ai même pas le bac, mais je l'ai quand même passé, je me suis débrouillée pour le rater. Et après le bac, moi je voulais travailler et je voulais pas me lancer des grandes études, ce que je regrette amèrement aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai acheté la revue L'étudiant, qui était le sujet « Que faire avec ou sans le bac ?» Et j'ai trouvé l'école de librairie. Et je me suis dit, bah, l'école de librairie, c'est plutôt sympathique. Et pourquoi pas ? Et voilà.
Il y avait déjà une appétence pour la lecture, alors ?
Oh oui, j'ai toujours beaucoup aimé lire. J'aimais beaucoup faire des exposés quand j'étais à l'école. J'aimais beaucoup ça. Donc, c'était pas un monde qui m'était étranger.
D'accord. Et c'était quelque chose de personnel qui ne t'a pas attiré tout de suite dans le monde des études, finalement, à cette période-là ?
Oui, tout à fait. Je voulais vraiment entrer dans le monde du travail.
Ouais, comme beaucoup de personnes.
Voilà,
de jeunes,
j'avais
oui.
18 ans et ouais. Je voulais vraiment entrer dans le monde du travail. Ça me paraissait tout à fait exaltant. Bon, aujourd'hui, ça me paraît moins, mais je voulais vraiment être indépendante, autonome. Je voulais que ce soit rapide. Voilà, c'était pour cette raison.
44 ans de métier, combien dans la librairie Le Fayeur ?
Pas très longtemps parce que je n'y suis que depuis 9 ans.
Ah, ou quand même. Avant cela, est-ce que c'était toujours à Rennes ou tu es venue d'ailleurs ?
Oh non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à Aix-en-Provence. Ensuite, je suis partie à Paris. J'ai fait Angers, Nantes et Rennes. Et je pense que je vais m'arrêter là en Bretagne. Je ne vais pas aller plus loin.
Et serais-tu une bretonne d'adoption comme moi ou...
Ah, totalement. Je suis, évidemment, on ne peut être que amoureux de la Bretagne. Si je viens du sud et qu'on me dit, mais comment... Comment ça se fait ? Enfin, le soleil ne te manque pas, mais il y a du soleil en Bretagne.
Je suis d'accord avec toi. Enfin, aujourd'hui, du moins, voilà. Nous avons beaucoup de chance. Mais c'est vrai que pour nous, des plantes un peu tropicales. Enfin, moi, je suis une plante tropicale.
Toi, tu l'es plus que moi.
Voilà, vraiment, mes défis du Sud, trouver vraiment que la Bretagne, c'est la région la plus charmante, peut-être, de France. Oui. Pas que, pas la seule, bien sûr, mais c'est quand même un lieu extra pour vivre.
Oui, et puis c'est une région qui a une forte histoire. C'est une région qui est à la fois terrestre et maritime. Mmh. Et à chaque détour de chemin, il y a quelque chose de beau à voir en Bretagne. Puis ce sont des villes très dynamiques.
Oui.
Et sais-tu que c'est dans l'Ouest qu'on lit le plus ?
Alors là, on vient de faire vraiment un hommage à la Bretagne, aux Bretons et à la littérature avec tous ces beaux mots. Oui. Évidemment, c'est le sujet qui nous unit ici aujourd'hui. Je pense qu'avec 44 ans de métier, tu as vu grandir, se transformer ce monde littéraire. Quelle est la vision que tu as de ce ton ?
Je trouve que, en fait, il y a de plus en plus de parutions, il y a de plus en plus de livres dans tous les domaines. Il y a des domaines qui ont vraiment explosé, comme la cuisine, par exemple, la bande dessinée, je n'en parle même pas, la jeunesse. Moi, quand j'ai les mangas, quand j'ai commencé à travailler, il y avait très très peu de livres de jeunesse. C'était le tout début des folios juniors. La littérature a explosé aussi, la littérature étrangère, il y a beaucoup beaucoup plus de d'offres si tu veux. Mm-hmm. Et la clientèle, je sais pas trop parce que moi j'ai changé de région, j'ai changé de librairie, donc je sais pas trop, mais c'est ce qui il y a vraiment énormément de choses. Et ce qui est formidable, c'est que dans une librairie, je pêche un peu pour ma chapelle évidemment, il y a absolument tout pour n'importe qui et à n'importe quel prix. C'est-à-dire que même si on n'a pas trop de sous, il faut arrêter de penser que la librairie, c'est quelque chose réservé à une élite. C'est absolument faux. Il y a vraiment tous les livres sur tous les sujets, à tous les prix, pour tout le monde.
Et ça, de toutes les tailles aussi.
Et de toutes les tailles.
Parce que le livre, c'est un objet qui peut faire peur parfois.
Exactement. Et il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas avoir peur des libraires, parce qu'on imagine toujours que ce sont des gens très intellectuels. Alors, non, c'est pas vrai. Bon, on l'est un petit peu, mais franchement, non, venez nous voir. On est des gens tout à fait normaux, tout à fait gentils, agréables. Moi, je crois qu'une des plus belles choses qui me soit arrivée, je pense, c'est qu'un jour, il y a un monsieur, c'était bien avant le confinement, qui est venu me voir. Je sais pas quel âge il avait, peut-être 50 ans. Il était fatigué par la vie. Et il me dit, voilà, moi, je suis ouvrier, j'ai toujours travaillé sur les chantiers et je ne sais pas lire. En fait, bien sûr qu'il savait lire. Et il cherchait un livre pour, sur les chevaliers. Il avait envie de quelque chose sur les chevaliers. Eh bien, on a trouvé. Et je trouvais que c'était tellement courageux de sa part de venir déjà entrer dans une librairie, venir nous voir, venir me dire « je ne sais pas lire, c'est pas vrai ». Et même si on ne sait pas lire, il y a des livres d'images, il y a toujours quelque chose.
Voilà, il s'est donné, il a osé, il s'est donné les moyens de son élan comme ça, élan de vie vers les livres qui est apparu, il a franchi le pas, et c'est ce que tu es en train de faire là, tu nous invites à venir. Bon, moi j'adore venir en librairie, etc. Forcément, et c'est de là aussi qu'on s'est connus avec toi. Et je sais aussi que cette année est une année particulière pour toi, c'est une année particulière pour Canal B, c'est un anniversaire. On a parlé de ces 44 ans, voilà, plus de 40 ans, ça fait 2 fois 4, tiens, 24 en littérature, et bientôt, dans quelques semaines en fait.
Trois semaines,
et bah tu vas prendre ta retraite.
Oui, je m'en vais.
Tu t'en vas. Je suis venue te dire.
Voilà, je suis venue te dire que je m'en vais. Oui, je m'en vais. Je m'en vais parce que c'est un travail qui est physiquement très fatigant. On n'imagine pas, les gens pensent que les livres sont arrivés tout seuls, mais non, il n'y a pas de gnome la nuit, hein, non. Donc les livres, il faut les porter, c'est lourd, c'est du papier, ça vient du bois. En plus, c'est un livre qui aussi, c'est un métier qui aussi nous demande beaucoup de concentration, puisqu'on a toutes les demandes, ça va des demandes les plus tragiques à une jeune femme qui vient vous voir en vous disant qu'elle a perdu son bébé, qu'elle cherche un livre sur la mort prématurée du nouveau-né. Donc ça, c'est émotionnellement assez lourd. Et puis après, on peut avoir sur la reproduction des papillons, ou je dis n'importe quoi, mais, ou un livre de cuisine libanaise, un roman pour faire plaisir à sa grand-mère, mais qui perd un peu la boulette.
Enfin, voilà, un roman jeunesse.
Voilà, en jeunesse. On a toutes les demandes possibles et inimaginables. Donc ça nous demande aussi une gymnastique intellectuelle. Il faut être rapide, il faut répondre au plus juste. Mm-hmm. Et donc c'est un métier, c'est tout le bonheur de ce métier aussi.
Et tu vas aussi arriver aujourd'hui dans le métier, autour de toi, les jeunes.
Et oui, alors c'est la relève. J'en ai formé pas mal. J'ai pas mal de petits bébés libraires, pas mal en France. Et c'est toujours... j'adore transmettre. Donc voilà, des fois, je les vois grandir. Je les vois changer des fois de voix. Mais c'est la vie et c'est logique. Mm-hmm. Mais quand je les vois grandir et réussir, c'est toujours un très, très grand bonheur.
Et quelle est la petite chose que tu leur dis, que tu leur souffles comme ça pour qu'ils aient cette passion de métier qui ne s'éteint pas, parce qu'il y a des moments de découragement dans tous les métiers. Est-ce que tu as, je ne sais pas, quelque chose que tu as observé dans ton quotidien, dans ton métier, qui peut être transmis, ou que tu as déjà fait d'ailleurs ou pas, à un libraire, carrière qui démarre dans le métier, comment on peut garder en fait cette passion?
Alors, on a une chance, c'est que nous, ça se renouvelle tous les jours. On a des nouveautés tous les jours. Ce qui fait que même si, et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera encore, de ne plus avoir envie de lire. Il faut être honnête, il y a des moments, on n'a plus envie de lire. On n'y arrive plus.
On peut être saturé aussi.
Voilà, on est saturé, on n'y arrive plus. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est formidable, c'est qu'il y a l'émulation collective. On a toujours des gens autour de nous qui lisent et qui ont lu un truc absolument épatant. Ça peut être une bande dessinée, un policier, un roman, un essai, peu importe. Un livre de cuisine, n'importe quoi. Et il y a toujours l'enthousiasme des autres qui, en fait, vous porte. Et c'est comme une roue. Et le jour où c'est l'autre qui est un peu en baisse de régime, eh bien, c'est nous qui allons lui dire, en fait, on va faire le même métier que qu'avec nos clients. Et, écoute, tu n'arrives pas à lire, prends ça, tu vas voir, c'est formidable. Et voilà, en fait, on se remet en selle tous ensemble.
Oui, et c'est... tu présentes des potes, quoi.
Oui,
voilà,
c'est exactement
ça. Tu présentes
ça.
Des potes qui vont t'aider.
Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un métier d'échange, c'est un métier extrêmement généreux. Et c'est un métier où on absorbe beaucoup. Et puis, c'est un métier, mais il faut bien que les gens le sachent aussi, où on écoute beaucoup nos clients et on découvre des livres par nos lecteurs. Donc, et ça, c'est aussi, ça
eux
participe
aussi,
de l'échange.
Eux aussi, ce sont des prescripteurs.
Mais exactement. Sachez que si vous passez la porte d'une librairie, vous avez aussi quelque chose à dire et que ça en est dans l'échange.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, à midi aujourd'hui pour l'anniversaire de 40 ans de Canal B. Nous sommes en train de faire de 40 ans d'émission live depuis 9h ce matin. Ça a démarré tôt ce matin et ça va se tenir en live, en relais avec tous les bénévoles, les personnes qui entourent bien sûr Canal B et qui font de la radio ici. Eh bien, nous sommes là pour nous relayer de jour et de nuit pour faire du live durant 40 heures. C'est pas magnifique ça? C'est génial ça, Véronique, hein?
Formidable.
Vraiment, c'est un bel élan, ça commence comme ça. Il y aura plein de festivités dans le cadre de l'anniversaire de Canal B, bien sûr. Il y a aussi, par exemple, le 23 juin, nous allons être au Petit Bateau, au canal d'Ille-et-Reims, vraiment à Préhy-Saint-Martin, et nous allons faire des émissions de direct. Ça sera un dimanche. Il y a le boulot de Rome. Il y aura même un concours, je crois, de pétanque, tu vois. Il y aura une braderie avec des produits, évidemment, des livres, des disques de deuxième main. Enfin, voilà, c'est une braderie, quoi. Et des émissions qui vont démarrer durant toute l'après-midi avec DJ set à la fin de journée de Yann Barbotin, bien sûr. Et aussi la sieste, bien sûr, en montant un peu le temps. temps la sieste de Marc Blanchard, une sieste plutôt au caractère un petit peu tropical, donc ça me va très bien aussi. Le 23 juin, il y a d'autres dates, vous pouvez toutes les trouver sur le Facebook de Canal B, vous pouvez les trouver sur le site web. Voilà, autour de vous, les gens, ils ne parlent que de l'anniversaire de Canal B cette année, il faut quand même le savoir. Je déconne. Enfin, il y a autre chose aussi que je souhaite vous dire par rapport à Canal B, c'est que nous avons besoin de vous, bien sûr, vous qui nous écoutez. Si vous voulez faire un don, allez-y. Vous pouvez aller sur le site canalb.fr, il y a une page dédiée, voilà, qui va vous expliquer pourquoi c'est chouette de faire un don à Canal B. Et franchement, mettez votre main dans la poche si jamais vous pouvez. Ne sortez pas que des oursins. Peut-être quelques euros pour nous aider à Canal B à maintenir cette belle radio qui existe déjà depuis 40 ans. Voilà, nous sommes en train de parler des livres avec Véronique. Donc, Véronique, nous avons fait tout un début comme ça sur le métier de libraire. Toi qui es encore durant 3 semaines à la librairie Le Fayeur, qui vient là depuis 44 ans de métier autour de... C'est un métier absolument magnifique de vivre parmi les livres, de les partager. Et sur la table, ici, il y a des livres. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui ?
Alors, en fait, je vous ai apporté les 3 livres du moment.
Wow !
Que moi, j'affectionne énormément. Et le premier, c'est celui de Philippe Collin, donc confrère sur France Inter, qui a écrit un livre absolument formidable, absolument épatant, qui s'appelle « Le barman du Ritz ». C'est une histoire totalement vraie. C'est le grand roman de l'occupation, comme dit le bandeau. Franck Meyer était barman au Ritz. Et en 1942-44, etc., les Allemands ont investi Paris et évidemment ont investi le Ritz. Enfin, c'était les officiers supérieurs. Et ce barman, eh bien, quand on travaillait au Ritz, de 2 choses l'une, ou on partait et il fallait quand même vivre, ou on restait à bord du navire et on le maintenait le mieux possible. Et il y a une équipe absolument formidable. Et le barman, lui, il a une position très particulière parce que il voit tout le monde passer à son bar, fatalement. Alors c'est le bar du Ritz, ça, hein, c'est pas le café du, c'est pas le Troquet Duc de la gare. Hein. Et il côtoie toute l'intelligentsia, puisque avant que l'armée allemande n'arrive dans Paris, il y avait évidemment toute la gentry, comme on dit en bon français, qui et les Américains qui fréquentaient le Ritz. Donc c'était il côtoyait Fitzgerald, Hemingway, Guitry, etc. Et les Américains partent, évidemment, les Allemands arrivent, mais la bonne société parisienne va rester. Chanel, Guitry, Arletty, pour ne citer qu'eux, vont continuer à fréquenter le bar du Ritz. Et cet homme est très particulier parce qu'il était juif, mais personne ne l'a su, et il l'a caché jusqu'à très longtemps. Et en même temps qu'il servait et qu'il n'était pas sans sympathie envers certains officiers. Il faut voir qu'il servait aussi les officiers de la Wehrmacht. Qui étaient des gens plutôt éduqués. Alors évidemment, il y avait aussi Göring. Alors lui, on l'efface du paysage parce que c'est un personnage sinistre, absolument, et vraiment un pourceau, et c'est injurieux pour les pourceaux. Mais il y avait les autres. Et il y avait aussi Junger. Donc cet homme qui était habitué à côtoyer les intellectuels parisiens et américains va se retrouver aussi dans cette atmosphère un peu intellectuelle, feutrée, bien élevée. Et en même temps qu'il côtoyait ces gens-là, il faisait faire des faux papiers pour ses amis juifs, ou pas amis d'ailleurs, pour les juifs qu'il pouvait, puisqu'il connaissait tout le monde, il connaissait tout le monde des ambassades. Et voilà, c'est un homme assez étonnant, et le livre est formidable parce qu'il n'est pas du tout manichéen. On n'a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, les pieux et les pervers, comme vous voulez. Donc c'est très sur toute cette ambivalence. C'est un livre que vous commencez, vous ne pouvez pas lâcher, qui est extrêmement bien rythmé, qui est bourré d'anecdotes, et à la fin du livre, il y a les photos des principaux personnages, et c'est là qu'on apprend que certains officiers qui le fréquentaient, qui étaient à Paris, en fait, ont fomenté un complot contre Hitler. Voilà. Donc, tout est beaucoup, beaucoup plus trouble qu'on imagine. Alors, il n'est pas très élégant, pas très gentil, mais il a raison de ne pas l'être avec Chanel, qui, excusez-moi, mais était une vraie saleté. Brillante couturière, mais une sale femme, vraiment d'une méchanceté absolument extraordinaire. Voilà, donc il griffe un peu au passage. Et c'est vraiment... Mais passionnant.
Et c'est romancé
Alors c'est romancé, c'est écrit comme un roman, mais c'est très très documenté. Il a vraiment eu accès aux archives du Ritz. Il a beaucoup travaillé. Il faut savoir que Franck Meyer aussi avait publié. C'est le roi du cocktail. Hein. Et ces cocktails sont mythiques aujourd'hui encore. Ils sont faits par les plus grands barman. Et il avait, à l'instigation de Fitzgerald, il avait publié un livre avec ses recettes, livre qui n'avait jamais été publié depuis, qui ne se trouvait plus depuis les années 40, et qui vient d'être republié à cette occasion.
Ah, donc voilà,
c'est vraiment passionnant.
Génial.
C'est vraiment un roman, mais bah, oui, parce qu'il a inventé les dialogues par la force des choses. Mais encore, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il en a repris certains dans les correspondances, dans les documents, etc.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment tout un temps de recherche. Est-ce qu'on a une idée de... Enfin, il dit dans la presse combien de temps il a fallu...
Il a mis 7 ans, je crois, à travailler sur ce livre. Et puis, c'est très bien écrit. C'est vraiment, je vous assure. Alors, arrêtons avec cette idée très préconçue que les femmes ne s'intéressent pas à la guerre. C'est tout à fait faux. Moi, je suis une femme. J'ai plein de lectrices qui sont revenues me voir en me disant « Mais c'est absolument formidable, ce livre. » Et je suis très contente parce qu'il marche très, très bien. Et j'ai beaucoup de lecteurs qui reviennent.
Ça fait peu de temps qu'il est...
Il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines.
Donc, c'est vraiment une grande nouveauté, quoi.
Et j'adore quand les lecteurs viennent me remercier pour un livre, je dis toujours mais moi je l'ai pas écrit. Hein.
Non, tu n'as pas écrit, mais justement on parlait de métier tout à l'heure, c'est vrai que vous lisez énormément,
oui,
forcément. On quand on arrive, on voit bien, coup de cœur de Véronique, coup de cœur de Pauline, etc. etc. Et c'est vraiment, vous allez sur vos coups de cœur, totalement libre de
totalement.
Le faire.
On fait un métier, en tout cas moi j'ai la chance, nous avons la chance de travailler dans une librairie où on nous donne totalement carte blanche et je vais dire excusez-moi je suis un peu grossière mais on s'éclate et vraiment on jubile. Alors c'est un métier qui nous demande beaucoup de travail, les gens nous disent mais vous lisez quand? Bah, le soir, le dimanche, les jours fériés, les vacances, on lit beaucoup sur notre temps privé et on ne peut lire que sur notre temps privé. Mais si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce job.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un métier passion, très concrètement. Alors un deuxième
Alors le deuxième cœur. C'est un de mes gros coups de cœur, c'est un succès phénoménal.
C'est vrai, hein.
C'est un premier roman qui est vraiment écrit par un total inconnu du grand public, parce qu'il n'est pas inconnu du tout dans le monde de l'art. Hein. Il s'appelle Thomas Schlesser et ça s'appelle Les yeux de Mona. Et c'est un livre absolument formidable puisqu'il a réussi au milieu d'une trame romanesque avec l'histoire de cette petite fille qui a 8 ans et qui risque de perdre la vue. Elle est en danger de cécité. Et dans cette histoire, il a enchâssé, mais vraiment, enchâssé, c'est le mot, comme des pierres précieuses, les trésors de notre culture artistique. On part de la Renaissance avec Botticelli et on finit avec Soulages. On visite donc les œuvres qui sont au Louvre, au musée d'Orsay et à Beaubourg. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les œuvres, qu'on les connaisse ou pas, ça n'a aucune importance parce que vous avez en plus dans la jaquette les reproductions des tableaux ou des sculptures dont il nous parle. Et il nous fait... À travers tous les mercredis, en fait, Mona a rendez-vous avec son grand-père qui, au lieu de l'emmener chez le psychologue qui la préparerait à l'éventualité de cette cécité, il l'emmène une heure dans un musée devant une œuvre. Et il lui apprend à regarder. Et il nous apprend à regarder. Et on a un cours d'histoire de l'art formidable parce qu'une œuvre d'art, c'est d'abord une émotion, bien sûr. Et ensuite, vous avez votre cerveau qui fonctionne. Donc, une œuvre d'art, c'est à la fois de l'esthétique, de la politique, de la religion, du spirituel, disons plutôt, de sens large, et de l'histoire, avec un grand H. Et c'est tout à fait passionnant parce qu'il nous décode ça, pas du tout de façon ennuyeuse, et vraiment intellectuellement très bien faite, on se sent intelligent.
Avec une écriture assez excessive, accessible.
Ah, c'est totalement. Mais moi, j'ai une amie qui le dit elle-même, n'y connaît rien, ou n'y connaissait rien, qui a pris ce livre. La seule œuvre qu'elle connaissait, c'était La Joconde. Et en fait, on entre dedans. Et c'est ce que j'appelle un livre domino. C'est-à-dire que ça vous donne envie d'aller voir par ailleurs. Et après, on va aller au Louvre ou à Orsay, si on en a. Et nous, en France, on a la chance. Et à Nantes, on a 1h30 de Paris. Le monde entier vient au Louvre, le plus grand musée du monde. Et c'est absolument formidable parce que j'aime ces livres qui ne prennent pas les lecteurs pour des crétins parce que nous sommes intelligents tous.
Oui, c'est vraiment ça et ça peut aussi susciter juste la curiosité
tout à fait.
De faire de même avec des œuvres autres qui ne sont pas forcément dans le livre, mais il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension petit à petit, parce que une intention dans chaque œuvre, des choses, des détails, des choses à regarder.
Exactement.
Alors que lorsqu'on n'est pas devant, on ne le perçoit pas forcément. Ouais. Parce qu'il faut le dire aussi, on observe que les gens ils passent de moins en moins de temps à regarder ou à contempler vraiment. Mais alors, les téléphones portables, ils sont tous dehors.
C'est un énorme débat. C'est effectivement photographier des choses qu'on ne regarde pas et qu'on ne regardera pas non plus, parce qu'une fois que c'est dans votre appareil photo, vous ne les regarderez pas plus. Mais apprendre à regarder, prendre le temps. Et pareil, les musées, c'est comme les librairies, c'est pas un lieu sacré.
C'est pas un lieu sacré.
Non.
Mais c'est un lieu qui peut être sacrément cher pour certains. Certains musées, forcément. Et donc, ils profitent quand il y a aussi des moments.
Voilà, il y a des, il y a quand même beaucoup de prix, il y a beaucoup d'entrées gratuites.
Exactement, et des gratuités.
Voilà, il y a des, nocturnes. Et le musée de Nantes, je signale, de Rennes, pardon, excusez-moi l'absus. Le musée de Nantes aussi, mais le musée de Rennes est gratuit.
Oui.
Et il a quand même un chef-d'œuvre, entre autres, il en a beaucoup d'autres, mais il y a quand même un chef-d'œuvre. Et il est accessible à tout le monde et il est très, très, très beau.
Il y a surtout plusieurs maisons de culture à Rennes qui sont absolument envieuses, je pense. On peut jalouser ailleurs d'avoir autant d'accès à la culture
tout
et aux livres, notamment ici avec la bibliothèque à côté. Je pense d'ailleurs les libraires qui sont très présents dans la ville, partout dans la ville.
Oui.
Vous êtes là rue Saint-Georges, mais autour de nous, il y a énormément.
Mais plus il y a de librairies, mieux c'est.
Je pense aussi. Je crois, je suis même convaincue.
C'est comme les cinémas.
Oui. Alors, un troisième coup de cœur.
Alors, le troisième, c'est un tout petit livre qui vient d'être réédité. C'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps, qui s'appelle Senso, de Camillo Boito, qui était italien. On est fin 19e. C'est un livre qui a été adapté au cinéma par Visconti. Excusez du peu. Donc le film d'ailleurs est en accès libre sur Internet et c'est une histoire d'une cruauté phénoménale. C'est l'histoire de la comtesse, j'ai oublié son nom, pardon, qui le jour de pendant son voyage de noces à Venise rencontre un bel officier autrichien. L'anecdote n'est pas anodine puisque c'est le moment où l'Autriche investit le nord de l'Italie, donc Venise en particulier. Et il est beaucoup plus jeune qu'elle, évidemment. Enfin, évidemment, dans le roman en tout cas. Et puis pourquoi pas, dans la vie aussi. Et c'est surtout qu'il comprend très très vite qu'elle est très amoureuse de lui et qu'elle a beaucoup d'argent. Et lui est un garçon sans aucune moralité, aucune. Et le jour où elle va comprendre enfin, elle va enfin ouvrir les yeux, voir à quel point il se fiche d'elle, elle va se venger. Et la vengeance sera Et l'écriture de Boito est absolument extraordinaire. Et le livre est joli, comme tout. Ça vient d'être réédité et c'est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre de la littérature.
Un tout petit livre, d'ailleurs. On peut parler de prix. On parlait de prix tout à l'heure.
Celui-là, alors là, pour votre mère, vous pouvez le lui offrir, puisque c'est bientôt la fête des mères. 8,80 €.
Oui, il est l'air canon, canon.
Il est très, très
beau. En tout
cas,
il est intriguant.
Ah, mais je le recommande vivement. Alors, Visconti a pris quelques libertés avec le roman, mais c'est normal dans son film. On ne fait jamais la même chose. C'est une autre œuvre, un film tiré d'un livre. Mais l'écriture de Boito, là, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Je ne me souvenais plus à quel point c'est absolument extraordinaire d'intelligence, de finesse, de vocabulaire, de d'élégance.
Et surtout, un brin de cruauté.
Ah, mais c'est horrible. Elle est complètement auto-centrée, comme on dit aujourd'hui. Elle ne pense qu'à elle. Et bizarrement, cette femme qui est si égoïste, si sûre de sa beauté, mais qu'elle voit un peu se faner, ça c'est le drame de nous tous, va tomber dans les raies de ce jeune homme qui va tout à fait sans aucun scrupule usé de la situation.
Voilà, c'est exactement malmener cette femme.
Oui, mais rassure-toi, Juliana.
Oui, mais c'est très bien. C'est le roman de plage de cet été. Je le sens.
Oui.
Non, il y a peut-être des choses plus douces. Nous allons revenir d'ailleurs dans un instant pour continuer de parler de livres, par exemple, qu'il ne faut surtout pas rater dans sa vie. Donc, si vous êtes vraiment très inquiet de savoir qu'est-ce qu'il faut lire avant de disparaître, Véronique va vous mettre au parfum de cette lecture. Allez, on va écouter un morceau de Flavien Berger.
Je te fais un feu de tous les dingues, brûle les dieux à toute berzingue. Tout le monde s'attend depuis hier, c'est étonnant comme
avec un léger côté cosmique, hein, hein, on est d'accord.
Non, mais celui que je vous ai trouvé là pour la fin, là, je pense que ça va te faire plaisir.
C'est vrai.
Je pense qu'il va te... Oui.
C'est la douce voix de Véronique que vous écoutez maintenant, ici avec moi, sur Canal B, pour cette émission de 40 ans de Canal B, émission d'anniversaire. Nous sommes en train de parler de livres, bien sûr. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, juste avant le morceau, il y a peut-être un livre qui avant de disparaître, avant de mourir, il faut absolument le lire. Et Véronique, elle m'a dit, c'est quand même un peu compliqué ton truc là. Mais tu l'as trouvé quand même.
Oui. Oui. En fait, j'ai trouvé, c'est toujours très audacieux, évidemment, j'aurais pu vous dire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, l'Iliade et l'Odyssée, la Bible sans doute. Mais moi, je vais être beaucoup plus humble. Et je vous parle d'un livre qui s'appelle « La demande » de Michel Desbordes. Et c'est un livre que je trouve absolument sublime de par le sujet et de par l'écriture. Oui. Je vous lis juste quelques lignes, mais très 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 courtes.
Ah oui, vas-y, on adore.
Il savait d'elle qu'elle s'appelait Tassine et qu'elle était native de la région. Il n'aurait su lui donner d'âge et encore moins dire si elle était jolie ou non. Il la regardait attentivement avec l'air d'être ailleurs. Il la regardait sans la voir, c'est ce qu'elle finit par penser, et puis elle vit son visage s'animer, un vague sourire paraître sur ses lèvres, un mouvement vers elle, de l'intérêt ou une simple courtoisie elle n'aurait su dire. Alors elle lui sourit à son tour. Le vent se levait et un nuage passa devant le soleil, obscurcissant les falaises, le vert des grands ifs. D'un geste lent, elle montra le jardin et la maison, puis il précéda dans le grand escalier. Ce fut tout ce jour-là au manoir de Clan. Et il était fatigué du long voyage. C'est l'histoire d'un grand peintre italien qui est vieux, qui sait qu'il ne retournera jamais dans son pays, qui arrive en France, sur les bords de la Loire, à l'invitation d'un grand roi de France, qui lui offre une belle demeure sur ces fameux bords de Loire. On a compris de qui il s'agissait, bien sûr, c'est Léonard de Vinci et François Ier, même s'ils ne sont jamais nommés. Et ce maître arrive avec ses serviteurs et avec ses élèves. Il est accueilli par cette servante dans cette belle maison. Ils ont fait un très long voyage, ils sont très fatigués. Et cette servante ne sait même pas elle-même quel âge elle a. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle ne sait pas du tout qui sont ces gens. Elle comprend simplement qu'ils sont importants, surtout lui, le maître. Et va s'établir une relation comme ça, très muette, assez muette en fait, entre ces deux. Tellement différents, intellectuellement à l'opposé. Et puis, cette servante va vraiment s'attacher à lui et lui à elle. Mais ça, tout ça, ça sera très feutré, très élégant. Et puis, elle va découvrir les dessins. Elle va découvrir ce qu'ils font dans leur atelier. Et ça va être pour elle une espèce d'émerveillement total. Mais là aussi, elle n'a pas les mots pour le dire. Et un jour, on n'a pas le temps, je ne peux pas vous lire l'extrait. Un jour, elle va voir le maître, un soir, elle va voir le maître et elle lui fait sa demande. N'imaginez rien de ce que vous pouvez faire parce que vous allez vous tromper complètement. Et c'est sublime. Et le maître va accepter.
Ah.
C'est un livre qui est sorti en 1999. Vous voyez qu'il n'est pas récent, mais les belles choses n'ont pas d'âge. Et ça s'appelle La Demande.
Ça a un petit faux air, en tout cas, non, c'est plutôt La Jeune Fille à la Perle avec Vermeer. C'est un petit faux air de ça.
Oui, alors, c'est exact, mais c'est beaucoup plus délicat,
oui,
beaucoup plus fin.
Oui.
L'écriture est nettement plus belle, mais c'est vrai, tu as raison sur le principe. Mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais il y a une corrélation entre les deux.
Après, je pense qu'on n'est pas dans le même milieu tout
non,
à fait
non,
là
on
non plus.
Pas
on
dans le même milieu, et surtout, n'est pas
à
la même époque non plus, pas tout à fait. Oui, il y a cette femme humble, effectivement, qui croit qu'elle n'a aucun intérêt intellectuel ou social ou quoi que ce soit, ce qui est totalement faux. Et ce maître qui est déjà adulé à son époque.
Ah oui, ça y est. Et avec son regard magnifique, justement, qui est capable de voir ce qu'on ne peut pas tout à chacun voir dans
et
un instant.
Et cette fameuse demande.
Oui, magnifique. Ouais, ça donne envie. Tiens, moi, je veux me prévenir.
Alors, il est en livre de poche. Hein.
Très, très bien. Très, très bien.
Il vient de ressortir parce qu'il n'existait plus.
On va répéter d'ailleurs le titre.
Hein. La demande de Michel Desbordes. Et il est chez Verdier, mais il existe en Verdier Poche. Verdier vient d'avoir la très bonne idée de le rééditer.
Magnifique. On avait parlé aussi d'un livre de chevet.
Alors, livre de chevet, ça c'était, ça c'est vraiment la question piège, parce que pour nous, on n'a pas un livre de chevet,
bah oui,
on a une pile de chevet.
Piles.
Et moi, mon livre de chevet, ça serait mon dictionnaire, si tu veux. Et en fait, je me suis souvenue que si j'avais un livre dans ma mythologie personnelle, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, je vais peut-être surprendre aussi, puis c'est mon livre, ça s'appelle Marlaguette. Peut-être as-tu lu ça à tes enfants quand tu étais quand
non,
ils étaient plus jeunes.
Non, je n'ai pas lu celui-là, mais je suis agréablement surprise de voir que c'est un livre jeunesse.
Voilà, c'est un livre pour les enfants.
Oui.
Il est marqué entre 3 et 6 ans. Bon, moi, j'en ai un petit peu plus. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui rencontre un loup qui veut la manger. Elle se débat tellement qu'à l'entrée de sa grotte, il se cogne très fort. Elle est très contente. Elle lui dit tant pis pour toi et tant mieux. Et elle lui fait la nique. Sauf que le loup est inanimé. Et Marlaguette va le soigner, va le ranimer, va lui donner de l'eau, va vraiment le soigner pendant plusieurs semaines. Et quand le loup se rétablit, elle lui fait promettre de ne plus jamais tuer qui que ce soit. Et le loup, qui s'est attaché à Marlaguette et qui en plus a une dette envers elle, accepte.
Mmh.
Et le pauvre loup, par amour pour Margalette,
ah, il devient végétarien.
Exactement. Non, il ne le devient pas. Oui, il le devient par la force des choses.
Il
mange de l'herbe, des myrtilles et des champignons, mais il dépérit totalement.
Oui.
Et Marlaguette est complètement désœuvrée. Et puis un jour, c'est un chasseur, un bûcheron, qui lui dit « Mais ton loup, en fait, est en train de mourir. Il faut que tu lui rendes sa liberté, que tu lui rendes l'autorisation de manger de la viande, il en a besoin. » Et Marlaguette va délier son loup de sa promesse. Et le loup va partir. Et à la fin, ils se retrouveront de temps en temps dans les bois. Et je trouve que c'est un... Alors, il ne s'agit pas de faire de la philosophie de comptoir, mais
oui,
c'est un petit peu ça.
Oui, quand même.
Et Marlaguette regardait souvent vers le fond des bois avec son doux sourire, songeant à cette grande bête de loup qui, pour l'amour d'elle, avait accepté pendant des jours de mourir de faim. Je trouve que c'est un très beau livre sur l'amour, c'est un très beau livre sur le renoncement et rendre la liberté
oui.
à ceux qu'on aime, et en dépit du sacrifice que ça nous demande.
Absolument, oui, l'émancipation
voilà.
nécessaire
voilà.
de ce loup,
voilà.
c'est une question
de Marlaguette.
Oui, de Marlaguette.
Alors c'est très simple, c'est un peu simpliste sans doute, mais moi ça me ravit. Puis les dessins de Gerda Müller sont tellement merveilleux. Voilà, moi c'est mon livre oxygène.
Le but pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de causer des livres que j'aime ou quoi, mais je tiens juste à dire que moi aussi, mon livre de chevet est un livre de littérature jeunesse. Il s'appelle Ciao et je l'ai retrouvé au Brésil.
Ouais.
Là, au détour d'un de mes derniers voyages, c'est de Ligia Bojung. Et figure-toi que j'ai découvert que c'est une très, très grande autrice de littérature jeunesse qui a déjà gagné des prix internationaux. J'avais lu ce livre quand j'étais jeune et je le retrouvais maintenant. Donc, c'est devenu vraiment le livre, le top de top de ma pile de livres toujours et qui ne sort jamais de côté de mon lit, mais que j'ai déjà lu au lieu de maintes fois. Quoi,
parce et
que...
les livres, quand on est enfant, c'est très important
ah
parce
oui,
qu'ils nous
c'est...
marquent pour la vie.
Exactement,
donc,
on ne peut plus les lâcher.
Ne pas sous-estimer nos lectures d'enfants.
Les potes, quoi.
Ouais, plus que ça.
On va faire une pause anecdote parce que tu me disais que tu avais, par exemple, une anecdote
oui.
De libraire, en librairie. Et ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les clients qui sont...
Oui, alors on a toujours des questions assez étonnantes hein, dans tous les domaines. Mais il y en a une qui m'a profondément marquée. J'ai jamais trouvé... on m'a jamais posé une question aussi étonnante. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais encore à Paris et un jour, il y a un grand jeune homme qui vient me voir et qui me dit sur un ton un peu patibulaire comme ça, « Bonjour, je voudrais un livre avec des photos de Jésus d'époque. » Alors moi, les photos de Jésus d'époque, si vous voulez, heureusement, moi qui ai toujours l'esprit d'escalier, j'ai répondu tout de suite. Et je lui ai dit « Moi, par le Saint-Suaire, j'avoue, je n'en connais pas. » Et ça, ça m'est toujours resté, les photos de Jésus d'époque. Je trouve que c'est absolument fabuleux. Voilà, donc ça, c'est ma plus belle anecdote. quand je lui ai répondu le Saint-Suaire, je crois qu'il n'a pas tilté. Hein,
et puis d'époque, donc.
Oui, d'époque.
Là, c'est ça,
voilà,
d'époque.
Donc je sais que Jésus faisait des miracles, mais
oui.
là, il n'était pas assez en avance sur son temps, sur ce truc-là.
J'aurais bien vu Jésus avec, je ne sais pas moi, le casque de Daft Punk.
Oui, voilà, ben, bon, mais les photos de Jésus d'époque, ça c'est
ouais.
quand même assez savoureux.
Oui.
Et la deuxième qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, elle est très très jolie. Il y a un jeune couple qui est venu dans la librairie. Ils étaient bien habillés, mais sans excès. Ils étaient extrêmement sympathiques et jolis, je ne savais pas du tout. Et ils viennent vers moi et ils me disent, excusez-nous, voilà... c'est notre mariage, on vient de se marier et on aime beaucoup les livres tous les deux, on adore votre librairie. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse des photos dans votre librairie ?
Ouais.
Ah mais ouais, ça carrément. C'est trop mignon. Et ça c'est trop mignon. Alors évidemment, on leur a dit oui et puis moi j'ai pas réalisé suffisamment sur le moment, on aurait volontiers demandé qu'ils nous envoient une photo ou et on leur aurait volontiers fait un cadeau aussi, mais tout s'est fait très vite et ils étaient tellement adorables tous les deux.
Ah oui, c'est ça, donc tu es en train de me dire sa tenue un peu, enfin
oui,
voilà.
Oui, là,
alors, tu ne t'attendais pas en fait.
Mais pas du
elle
tout.
Elle n'était pas en robe de mariée,
non,
par exemple.
Non, elle avait une tenue civile, mais qui était extrêmement jolie, mais très simple. Lui aussi n'était pas en costume trois pièces, mais on sentait qu'ils étaient un peu habillés, si tu veux, un peu festifs. Mais un peu joliment, très élégamment, mais de façon très simple. J'imagine bien un mariage champêtre, tu vois.
Oui.
Et c'était tellement mignon de nous dire, on adore votre librairie, on adore les livres. Est-ce qu'on peut faire des photos de mariage dans votre librairie ?
C'est marrant de spécifier que c'est des photos de mariage aussi.
Pardon ?
Ils auraient pu juste demander de faire des photos, mais spécifier.
Non, ils ont bien expliqué. Voilà. Et ils ont demandé l'autorisation. Et
oui,
ça,
oui,
c'est
bien sûr.
Pas si courant.
Oui, ça, c'est chouette. Mais c'est enfin, si au-delà de ça, c'était pour vous mettre dans la confidence d'un
oui.
moment aussi intime de leur vie, quoi.
Et aussi heureux, j'espère, pour
ouais,
vous.
Oui, j'espère aussi.
Ouais.
En tout cas, s'ils aiment lire.
Mais c'était une journée, de toute façon, exceptionnelle pour eux.
T'es pas d'accord avec ça ? S'ils aiment lire, ils vont peut-être s'en sortir ?
Ah, c'était si simple.
C'est vrai, c'était si simple. Et nous allons aussi découvrir d'autres choses. Je te demandais tellement de choses, Véronique. Nous sommes encore sur deux ou trois.
Non, juste en fait, un classique.
Ah oui, le classique.
Ouais, tu m'as
bien
demandé
sûr,
un classique.
Oui.
Alors, moi, je suis très, très, très attachée à un livre qui s'appelle Le silence de la mer de Vercors. C'est le premier livre, il a été écrit en 1942, en pleine occupation allemande. C'est le premier livre des éditions de Minuit, qui était une édition de résistance. C'est une toute petite nouvelle, c'est pas très long. Et c'est un texte absolument magistral. Vercors, c'est son nom évidemment de résistant. Il s'appelait Henri Brunel.
Et il n'y avait aucun rapport avec le lieu ?
Non, il y a avec
c'est
la mer,
pas,
tu veux dire
ça n'a rien à voir le Vercors avec le
Non. Bah tu sais, Vercors, ouais, c'est un ouais, lieu voilà. de résistance aussi. Mais non, il a pris ce nom-là. Oui, bah, je pense en hommage aussi.
Oui.
Enfin, en hommage
En tout cas, en pensée.
Voilà,
forte.
En pensée pour les résistants du Vercors qui ont quand même bien payé aussi. Et donc, Le silence de la mer, c'est un livre absolument magistral qui a été évidemment publié complètement en loose day, si je puis dire. En tout cas dans la clandestinité, qui en fait a été aussi publié en Algérie. Et voilà ce que dit... je ne vais pas le retrouver, l'article. Le petit, bon, ce n'est pas grave.
Si, ça et, peut. Vas-y.
Oui,
ouais,
là,
c'est
je,
comme ça,
je
on est en direct,
plus.
C'est vrai. Je peux meubler en attendant, je peux dire...
Patiente.
Bah oui, je suis parfaitement patiente.
En fait,
à 40 ans de radio, c'est l'anniversaire de Canal B. On
donc,
a tout notre temps.
Et en fait, y a un livre qui raconte l'histoire d'un type absolument extraordinaire qui s'appelait Edmond Charlot, qui était libraire à Alger, qui a été le premier éditeur de Camus. Donc, c'est vraiment pas n'importe quel éditeur, c'est pas n'importe quel libraire. Et sa librairie s'appelait Nos Richesses, en hommage à Giono. Et il a été contacté, ce monsieur, par, je pense, par la résistance, pour publier et diffuser surtout Le silence de la mer. Alors lui, évidemment, Vercors, il n'en avait jamais entendu parler, hein, pas plus que les autres. Et il va réussir, je n'arriverai pas à retrouver mon chapitre, il réussit à faire imprimer, mais sur toutes les couleurs. Ils ont réussi à retrouver du papier, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'encre. Ils ont retrouvé des tas de papier rouge, vert, bleu, jaune, de n'importe quelle couleur. Le silence de la mer, comme ça, a été imprimé, s'est vendu à 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires à Alger en 1942. Je ne sais pas si on réalise aujourd'hui ce que ça représente. Et il était même envoyé par parachuté par la résistance en France Donc c'est un texte absolument magistral. Alors de quoi parle-t-il ce fameux texte, le silence de la mer? C'est un officier allemand qui, la maison de français a été réquisitionnée. C'est un homme avec sa nièce qui y vit. Et cet officier allemand arrive et tous les soirs il vient. C'est un monsieur extrêmement bien élevé. C'est un officier de la Wehrmacht lui aussi, très cultivé. Dans cette maison il y a un piano, il y a des livres. Et tous les soirs il va venir les saluer, leur dire bonsoir, leur parler de littérature, leur parler de poésie, leur parler de musique, et jamais, jamais, aucun des deux, ni la nièce, ni l'oncle, ne répondront. Pas même un bonsoir, rien. Et évidemment, cet homme va énormément apprécier cette résistance passive, si l'on peut dire, à cet officier. Et il leur parle de la grandeur de l'Allemagne, parce que lui, il est porté par la culture germanique. Un jour, il part à Paris en permission et là, il apprend ce que fait le Reich. Et quand il revient, il est tellement dépité, c'est plus que dépité, il se fait muter sur le front de l'Est. Ça veut dire la mort. Et c'est d'une beauté, d'une finesse, parce que en fait, si les gens ne se parlent pas, ils se regardent. Et va s'établir entre lui et la nièce une liaison comme ça, visuelle. Et on sent qu'elle n'est pas insensible à cet homme, parce que c'est plus un soldat, c'est un homme, et lui n'est pas insensible à cette femme. Évidemment, il ne se passera jamais rien entre eux, ils le savent tous les deux, et il y a un énorme respect et un énorme chagrin dans la tête de chacun. C'est un très très grand livre sur la résistance, mais vraiment... absolument grand livre.
Alors, ce que je trouve remarquable depuis le début de cette émission, c'est que tous les choix de tes livres portent sur des images.
Oui.
Porte sur des regards.
C'est vrai.
Hein? C'est vrai, on porte sur le fait de, bah voilà, de se contempler, de se regarder, de se comprendre sur un regard, de transmettre quelque chose. Et c'était ce qui est en train de se passer ici entre toi et moi, pour être tout à fait honnête avec moi. Parce que j'étais en train de réaliser quand même que j'avais une des libraires les plus délicieuses de la ville.
C'est trop gentil.
Dont mon émission d'honneur ici sur Canal B qui va bientôt s'achever. Nous allons terminer d'ailleurs, Véronique, tu as voulu très gentiment nous dédier le dernier livre pour l'anniversaire de Canal B. D'ailleurs, je tiens à dire, ça sera donc dans quelques instants, le relais va se passer, mais comme je n'ai pas reçu la feuille avec les noms de l'émission qui va suivre, je suis bien obligée maintenant. Non, je vais prendre. Ah, si, donne-moi un petit bout de saucisson, mais je vais terminer de parler quand même. Non, c'est juste que je n'ai pas la feuille pour annoncer ce qui va se passer par la suite. Ah, tu vas lancer toi-même. D'accord, tu prends là. Mais Véronique a donc un petit cadeau pour Canal B.
Oui.
Alors, vas-y.
Alors, pour une radio impertinente, tonique, je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle La Cucina, qui est sorti il y a déjà pas mal d'années. Je lis juste la quatrième de couverture et je sais que ça va te plaire, Juliana. Sexe et gastronomie.
Waouh!
Passion et désillusion, le tout saupoudré de mafia sicilienne. C'est un livre savoureux, mais dans tous les sens du terme. Et c'est drôle, c'est passionnant. Il y a des chapitres, mais c'est complètement délirant. C'est charnel, c'est très charnel. Hein. Par moments, c'est un petit peu coquin.
Tout ce que j'adore.
Mais oui, parce que et tout tourne autour de cette cuisine sicilienne qu'on adore, ou en tout cas qui nous fait rêver. Et l'histoire de cette jeune femme qui est une cuisinière hors pair et qui n'est pas issue de n'importe quel milieu et qui ne vit pas n'importe où. Et c'est génial.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
1, 2, 3... Oh, zum, 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 tá faltando oh, zum, 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 zum.
Bien, voilà, c'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus dans le cadre de ses 40 ans d'anniversaire en live, en direct avec les bénévoles, toutes les personnes qui sont ici avec nous, Canal B au quotidien, 40 heures d'émission non-stop pour vous. Et je vais passer la main à notre collègue de 13 heures qui va prendre l'émission. Je voulais juste remercier très chaleureusement Véronique de ta venue. Merci d'avoir fait cette émission avec
merci
moi.
Merci infiniment,
c'est
Juliana.
C'est trop
c'était
cool de t'entendre.
Très sympathique.
Merci beaucoup. Et
merci.
C'est à toi, cher monsieur.
Merci. Une voix extrêmement radiophonique.
Ouais, c'est vrai, hein, on est d'accord.
On avait le retour là-bas, c'était vraiment...
Oui, et puis c'est de l'inattendu avec Véronique, tu vois. C'est la radio curieuse, elle
exactement.
Est comme ça.
Tout à fait. Et donc, avec Juliane, qui est juste à côté et qui m'attend, Antoine, on va... Donc moi, j'anime la maison de disques, du coup. Et aujourd'hui, on va vous parler des sorties du jour, des sorties musicales du jour. Voilà, donc pendant une petite heure, on va vous passer un peu, surtout du rock, de la pop, un petit peu de rap. Mais voilà, donc... À tout de suite, du coup, si tu peux balancer vers le studio et...
Le studio, oui, ça y est.